le Forum de l'UNIS, Île-de-France et Grand Paris, jeudi 19 mars 2026 sur Radio Immo.
Bonjour, bienvenue sur Radio Immo. Je suis ravie de vous retrouver en direct du 12e Forum de l'UNIS, Île-de-France et Grand Paris. Une rencontre entre les professionnels de l'immobilier, les politiques également. Et justement, j'ai le plaisir d'être avec un grand professionnel de l'immobilier, Norbert Fanchon. Bonjour.
Bonjour Bérénice, enchantée.
Vous êtes le président du groupe Gambetta. Alors, oui. Vous pouvez nous rappeler vos métiers.
Alors, on n'est pas du tout adhérent à l'UNIS, on n'est pas du tout syndic de copropriété, on est promoteur en coopérative, on fait plutôt de l'accession à la propriété et on est aussi bailleur social, on a 2500 logements en patrimoine locatif social. Donc, on est promoteur gestionnaire et je suis très heureux d'avoir pu participer à une table ronde sur le Jean Brun, le dispositif Jean Brun et son évolution et son avenir dans les mois qui viennent.
Alors justement, on va en parler. On va déjà faire un petit bilan côté promotion et puis peut-être côté accession sociale aussi. L'année 2025, alors il y a eu une petite amélioration, pas du côté de la promotion.
Voilà, l'amélioration elle est pour la maison individuelle parce qu'elle a bénéficié du prêt à taux zéro qui a reboosté ce marché. Donc on est passé de 50 000 à 80 000 unités. Donc 2024-2025. Donc ça a une vraie respiration pour la maison individuelle, mais pour la promotion, pour le logement collectif, c'est une année historiquement basse, 50 000 unités vendues en dehors des ventes en bloc. Alors les ventes en bloc permettent de grossir, les ventes en bloc c'est ce qu'on fait aux bailleurs sociaux, ça permet de grossir le chiffre, mais 50 000 logements vendus à des particuliers, que ce soit un investissement en résidence principale, c'est un chiffre qui n'est pas vu depuis 1954, donc pour vous dire que la crise a été profonde. Et le début d'année est pas très positif, on est à 7700 réservations, donc sur deux mois, hein. Donc quand on fait x6, on est sur la même dynamique que 2025, mais le Jean Brun est tout à fait récent, donc on est encore sur une dynamique à 50 000 unités, et on peut espérer que le Jean Brun redonne un peu de souffle au marché du logement neuf.
Alors justement, ce dispositif, le dispositif Jean Brun, donc ce fameux statut du bailleur privé, il était attendu depuis des mois, des années par la profession. Il a été annoncé, on repasse pas sur tous les épisodes. Au final, sa version actuelle, j'ai deux sons de cloche. Moi, j'ai des professionnels qui, alors côté promotion, ils sont plutôt satisfaits. Pascal Boulanger, par exemple, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers. En revanche, côté on va dire réseau, certains me disent que c'est trop compliqué, que ça demande trop d'explications, que ça ne donnera pas envie aux Français. C'est quoi votre avis à vous qui êtes un peu sur les deux pans?
Moi, j'aurais préféré ou j'aurais aimé que ce soit un dispositif accompagné de réformes structurelles. Et la réforme structurelle, c'est la réglementation énergétique, c'est le zéro artificialisation, c'est comment on arrive à faire baisser le coût du logement neuf. Parce que le sujet du Jean Brun, c'est bien, c'est en fait, on est en train de dire qu'un logement, c'est un outil industriel et c'est logique qu'on amortisse un outil industriel. On le fait déjà quand on achète une machine-outil, quand on achète un camion. Donc, ce qu'on est en train de faire, le Jean Brun, c'est on rentre le logement dans l'économie normale. Donc, il faut arrêter de dire que c'est un avantage fiscal parce que certains le reprochent, mais on fait quelque chose de normal. Et il faut qu'on arrive à faire baisser le coût de revient d'un logement pour augmenter la rentabilité. Parce que le sujet, c'est qu'aujourd'hui, le Jean Brun aide à améliorer la rentabilité dans le logement, mais que ce n'est pas suffisant, et notamment dans un moment où on craint une hausse des taux d'intérêt et une hausse des taux d'intérêt sur le logement.
Et donc, effectivement, quand vous dites que ce n'est pas suffisant, ça ne va pas donner l'envie, ça ne va pas être assez avantageux pour le particulier qui veut investir.
Vous avez dit qu'il y avait deux versions. Aujourd'hui, on ne sait pas effectivement quelle va être la position des Français. Est-ce qu'ils vont dire on achète un logement, c'est une valeur refuge, demain j'aurai peut-être une plus-value avec, et puis dire qu'on ne paye pas d'impôt sur son loyer, c'est quand même une nouveauté assez dingue et il faut en profiter. Ou est-ce que j'ai un peu peur, je ne sais pas quel est l'avenir demain, donc du coup je garde mon argent et je continue à épargner. Donc il y a le Jean Brun qui est une très bonne nouvelle et puis il y a tout le contexte économique et géopolitique qu'on connaît. Et les deux vont jouer, on ne sait pas effectivement dans quel sens ça va avancer.
Alors justement, là, vous évoquez l'actualité. C'est vrai que la guerre au Proche-Orient fait peur aux investisseurs, fait peur au marché. On a vu une flambée des prix de l'énergie. Ça risque d'avoir des répercussions sur les taux des crédits immobiliers. Alors pour expliquer, c'est que ça a provoqué de l'inflation. L'inflation, on sait qu'un des leviers pour la maîtriser, c'est la hausse des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne et puis plus généralement des banques mondiales. Alors, encore... différentes projections à l'heure actuelle. Les économistes ne sont pas d'accord. On ne peut pas prévoir, hein, parce que y a encore plein de scénarios possibles. Mais c'est vrai qu'il y a une inquiétude là, qui se ressent du côté des professionnels de l'immobilier. C'est quoi ? C'est l'inquiétude de revoir la crise de 2022 ?
Oui, parce que je rajoute à cette équation que vous avez parfaitement décrite, et c'est ce qui s'est passé en 22 sur l'Ukraine, c'est l'augmentation des matières premières. L'augmentation, on a un prix de 10% de coûts travaux en plus avec la crise ukrainienne et la crise de l'énergie. Alors, les 10%, c'est à cause de l'énergie et à cause de l'inflation. Donc, ce qu'on ne sait pas, c'est combien de temps dure la crise, combien de temps dure un baril de pétrole à plus de 100 $. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est sûr que les coûts travaux vont augmenter.
Après, sur l'Ukraine, il y avait les matières premières qui étaient directement impactées. Par exemple, l'acier, là, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, mais c'est l'énergie qui est impactée.
C'est l'énergie et le transport. Ouais. Et il y a beaucoup de choses quand même qui sont liées au
coût. Donc indirectement, ce sera quand même impacté.
Voilà, exactement. Alors aujourd'hui, on a aussi une bonne nouvelle, c'est que le carnet de commandes des entreprises est plutôt vide. Et donc, elles ne vont pas augmenter les prix tout de suite. En 2022, en Ukraine, les carnets de commandes des entreprises qui construisent étaient pleins.
Après le
Covid. Ouais. Donc là, on a eu un effet d'emballement. Donc là, je pense qu'on n'aura pas d'effet d'emballement sur les 3 prochains mois. Mais à 6 mois, si on a une tendance inflationniste sur la manœuvre et sur les prix de revient, on risque d'avoir une hausse de nos coûts de production, plus le risque que vous évoquez sur l'inflation et les taux d'intérêt. Et c'est pour ça que moi, je plaide, et le Jeanbrun, c'est très bien, mais je plaide pour une réforme structurelle de l'immobilier. Il faut qu'on produise moins cher, il faut qu'on revoie les normes environnementales, énergétiques notamment à la baisse. Il faut qu'on arrête les contraintes sur les DPE, l'interdiction de location sur les FSG.
Donc annuler le calendrier fixé par la loi climat et résilience qui interdit à la location les logements mal notés.
Oui, et l'ARE...
Pas le repousser, hein. Vous êtes pour une annulation.
Il faut parler politique, donc on va dire qu'on le suspend. Et puis on verra comme la réforme des retraites, hein, on la suspend, puis on reporte les décisions à plus tard. Donc il faut d'abord le suspendre et puis après on verra ce qui se passe. Mais il faut considérer que depuis 2022, depuis l'Ukraine, Covid, Ukraine et maintenant l'Iran, on avait une politique, on avait des intentions, on avait des bons sentiments. Et il y a une politique internationale qui fait qu'il faut revoir ces positions-là. Et effectivement, il vaut mieux arrêter certaines choses et accepter qu'on remettra à plus tard. Mmh. Et vous voyez, la zéro artificialisation aussi. On aide à faire de la maison parce qu'on remet du PTZ, c'est très bien, mais il faut libérer des terrains.
Oui. Oui, parce que je rappelle à nos auditeurs le ZAN, hein, le zéro artificialisation nette des sols. Donc, c'est une interdiction, comme son nom l'indique, d'artificialiser les sols.
Oui, exactement. Et on considère en fait que la maison telle que les Français la veulent, telle que les Français le désirent, c'est trop, ça correspond à un autre mode de vie. Donc, il faut arrêter de construire des maisons pour préserver des espaces, pour peut-être faire de l'industrie, peut-être faire des projets l'objectif, hein, c'est 2030, 2050 sur la zéro artificialisation. En France, on a une difficulté, c'est qu'on refuse de démolir. Parce qu'on pourrait dire on arrête d'artificialiser, mais on construit et en même temps, on démolit. Et on construit là où on a des besoins, et les besoins, ils sont dans l'ouest de la France, ils sont dans les métropoles, et on démolit là où les Français ont quitté certaines régions.
Par exemple,
la fameuse diagonale du vide, hein, entre Charleville-Mézières et le Puy-en-Velay, vous avez des villes qui ont perdu 25 à 30% de leur population depuis 50 ans.
Donc là, c'est quoi ? C'est des logements vacants qu'il y a sur place ? C'est ça ? Quand vous dites démolir, c'est quoi ? C'est des bâtiments, des vides ?
Exactement. Quand on se voyage dans ces villes, quand on se balade en France, on se rend compte qu'il y a un quart de certaines villes dans cette diagonale, Charleville-Mézières, le Puy-en-Velay, qui sont malheureusement laissées à l'abandon parce que l'habitation ne correspond plus...
Parce qu'il n'y a pas d'emploi aussi, peut-être.
Il n'y a pas d'emploi, ça ne correspond plus au mode de vie d'aujourd'hui. On a construit pendant ces années-là au bord des nationales parce que ça correspondait à un mode de vie. On a construit beaucoup de choses liées à l'agriculture parce que c'était le mode de vie des années 60-70 aussi. Voilà, la France a changé. L'immobilier, en fait, n'est pas immobile. C'est ça qui me semble important aussi comme message. S'il faut adapter l'immobilier aux envies d'aujourd'hui, à la famille d'aujourd'hui. La famille française aujourd'hui, c'est une famille monoparentale. Monoparentale, ça veut dire une femme avec 2 enfants. Et il faut adapter les logements à cette famille-là.
C'est ce qui ressort de ce que vous voyez sur le terrain, ça.
Très clairement. Ouais. Très clairement. Et c'est aussi un des sujets d'appauvrissement du ménage français. C'est une femme avec 2 enfants. Et il faut qu'elle arrive à travailler, il faut qu'elle arrive à s'occuper de ses enfants. Et derrière, on a des familles recomposées. Et donc, il faut plus de logements, des logements différents. Et la famille française, telle qu'on l'imaginait dans les années 70, telle que les élus encore la verbalise quand on parle de programmation, quand on parle de logement, elle existe beaucoup moins que ce qu'on voudrait ou que ce qu'on imagine.
Donc on comprend bien que l'immobilier en fait suit l'évolution des modes de vie. Qui n'arrive pas à suivre ? C'est le secteur ou c'est les pouvoirs publics ?
Alors c'est l'immobilier. Il faudrait que l'immobilier suive les modes de vie. Et en fait aujourd'hui, c'est plutôt les politiques qui n'arrivent pas à comprendre
qui sont pas assez agiles en tout cas.
Que la société évolue, exactement. Mmh. Mais ça me paraît logique aussi. On projette les choses telles qu'on voudrait qu'elles soient et on a du mal à accepter telles qu'elles le sont. C'est un vrai débat sur il faudrait faire plus de petits logements, moins de logements.
Ça, vous me le confirmez, parce que c'est vrai que Pascal Boulanger l'a dit lors de la dernière conférence de presse, que les grands logements dans les projets, c'est ceux qui partent le moins vite, c'est ceux qui restent souvent. Quand je dis grands logements, c'est plusieurs chambres, parce que on est moins nombreux par foyer, c'est ce que vous dites. Et puis quand une famille veut un grand logement, elle va plutôt se rapatrier sur une maison. C'est ce que vous constatez aussi ?
Alors c'est... Je crois qu'il faut distinguer, et vous avez totalement raison, en province et puis à l'Île-de-France.
Ah oui.
Ouais. Et donc, dans
le schéma. Maison en Île-de-France, c'est plus compliqué.
Exactement. Et le schéma que vous décrivez, c'est vrai sur 90% du territoire. Il faut sortir l'Île-de-France, où en Île-de-France, je pense qu'on a besoin de plus de logements familiaux plus proches de Paris. D'accord. Parce que Paris s'est vidé des Parisiens, Paris s'est vidé des familles.
15 000 Parisiens de moins chaque année, je crois.
Exactement. On voit que la population vieillit, on voit plus de personnes seules. Et les familles, effectivement, sont parties sur la première couronne, voire la deuxième, suivant les moyens financiers qu'ils avaient.
J'aimerais juste revenir sur une dernière chose que vous avez évoquée, parce que c'est important de le dire, parce que les Français ne le savent pas. C'est vrai que la France est un très bon élève en termes de réglementation environnementale. Là, c'est le côté, la casquette promoteur. Pourquoi ça coûte cher ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Est-ce qu'il faudrait, quand vous dites qu'il faudrait réformer certaines choses ? C'est vrai que la France, c'est le meilleur élève, d'ailleurs, je crois, européen, en termes de réglementation environnementale.
Voire mondiale.
Mondiale, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Pourquoi ça vous coûte cher ?
En fait, vous avez raison. C'est peut-être, en tant que professionnel, on pense que c'est une évidence et ça ne l'est peut-être pas pour tout le monde. En fait, on a une conception d'ingénieur en France. On veut faire des bâtiments qui durent le plus longtemps possible, qui soient le plus sécurisés. Mais c'est vrai dans beaucoup de choses. Et donc, quand on construit un bâtiment, on a des normes, beaucoup de normes. On a des normes phoniques, des normes thermiques qui sont les plus performantes du monde. Donc, on construit des logements très techniques où le confort de vie à l'intérieur est absolument formidable par rapport à tout ce qu'on peut faire à l'étranger. Donc, ça coûte de l'argent. Et en fait, dans l'économie globale, on n'a pas les moyens de mettre de l'argent dans tout ce qui est la partie esthétique. Et quand vous voyagez dans le monde, vous voyez en fait des bâtiments et des logements beaucoup plus jolis, beaucoup mieux aménagés à l'étranger.
Mais moins performants.
C'est le choix qu'on fait. Et en fait, les normes, ça coûte parce qu'il faut revoir les matériaux, parce que la France est toujours en avance et donc on ne bénéficie pas de l'effet de masse d'une commande mondiale. Si je prends la réglementation énergétique 2020, elle est en 2020, en 2025, en 2028. Elle a des seuils. Donc c'est comme si vous faites une course de 100 mètres. Vous pensez que vous êtes arrivé, et ben non, on vous rajoute 3 haies à la fin pour aller encore plus loin, encore plus vite, encore plus fort. Mais à un moment, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'énergie. Vous revoyez les modèles en permanence. Donc le logement que vous imaginez, que vous concevez en 2020, en fait, 8 ans après, il est déjà obsolète. Et donc ça crée aussi des problèmes de perception des clients. Pourquoi quelque chose en 8 ans peut changer? Donc on a besoin.
Et pourquoi les prix du neuf augmentent autant aussi?
Exactement. Donc parce qu'on va mettre des matériaux de plus en plus qualitatifs, mais je parle de qualité technique. La qualité perçue, elle ne change pas en fait. Et c'est, donc nous, on a un prix de revient qui augmente, on a une qualité technique qui augmente, mais le vendre au client, c'est très compliqué parce que la perception, en fait, quand on regarde le logement, c'est exactement le même entre 2020 et demain, 2028.
Norbert, franchement, pour finir, peut-être votre un petit mot pour les mois à venir. À quoi vous vous attendez en tant que président du groupe Gambetta ?
Plutôt confiant, même si effectivement je regarde la situation au Moyen-Orient parce que j'ai été baigné dans la crise des années 90 où la crise des années 90 de l'immobilier commence au Moyen-Orient par l'invasion du Koweït par l'Irak. Je ne voudrais pas que ça se reproduise entre ce qui se passe en Iran. Je pense qu'on a tous les paramètres en France pour faire du logement une activité économique, une activité qui permettre de saisir une opportunité de relancer l'économie dans une période qui, à mon avis, quand même sera globalement compliquée. On parlait des prix de l'énergie, peut-être des prix de l'énergie durablement hauts. Donc, il faut créer de l'activité, il faut créer de l'emploi. Et je pense que le logement est vraiment le secteur d'activité qui permettra de capter de l'épargne des Français, qui permet de faire du crédit et qui surtout permet de loger les Français.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci Bérénice.
Et merci d'être avec nous, toujours en direct de ce forum, 12e forum de l'UNIS Île-de-France et Grand Paris.
Le forum de l'UNIS Île-de-France et Grand Paris, jeudi 19 mars 2026 sur Radio Immo.